Renault Scénic E-Tech 100% électrique, élu voiture de l'année 2024 par 58 journalistes venant de 22 pays et parmi 28 modèles de marques prestigieuses. C'est la 7e fois que Renault remporte ce prix, la 2e fois avec Scénic, et c'est une première mondiale pour une voiture électrique assemblée en France. Ça fait beaucoup de chiffres, mais le principal c'est que Renault Scénic E-Tech 100% électrique, allant jusqu'à 625 km d'autonomie, soit numéro 1.
Selon normes WLTP, plus d'informations sur Renault.fr. Pensez à covoiturer.
Vous écoutez
RMC.
RMC.
Ce profil d'attaquant qui n'en est pas vraiment un.
Je ne vais pas vous révéler le plan des pyramides, mais bon.
Je détestais mettre de l'argent dans des jeans. Je préférais mettre un beau t-shirt, une belle chemise, de l'argent dans des belles chaussures.
20h-22h, Génération After.
Nicolas Jamain.
Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans Génération After, comme tous les soirs de 20h à 22h, avec ce soir l'homme qui dit les termes. Bonsoir Wida Cherchois.
Salut Nico, salut à tous.
Avec également l'homme qui enchaîne les masterclass. Bonsoir Romain Canuti.
Merci Nico, pourquoi ça
Non, j'essaie d'adopter le langage Génération After aussi, tu vois.
Ouais.
Okay. Et puis en face de toi, il y a l'homme qui ne s'est jamais fait ratio sur Twitter, il a appris ça il y a quelques jours.
Ah, tu connais quoi le ratio?
Ratio? C'est mon neveu qui m'a appris. Tu t'es fait ratio ou pas déjà sur Twitter?
Ouais.
Ah, donc ça veut dire que c'est quoi? C'est se insulter, se faire.
Non, pas du tout. C'est en gros, tu mets un tweet et après en dessous, il y a quelqu'un qui a mis un tweet, qui t'a répondu et qui a fait beaucoup de likes. En gros,
plus que toi.
Tu t'es fait ratio.
T'attaques quelqu'un qui te répond et plus de likes que toi.
Ça doit dépendre de la force de l'émetteur. Moi, ça m'arrive pas encore ce genre de choses. Mais bientôt, grâce à vous.
Mais par contre, toi, tu peux nous ratio. Ouais. En débat.
Ouais, bah tu sais, mais moi quand je vous réponds sur Twitter, vous me répondez jamais en général. Ouais,
ça, c'est
je suis perdu dans la masse de vos mentions.
T'as combien de followers, Simon?
Je sais pas, 3 800.
Ouais, t'es trop bas pour Walid.
Ouais, non, je les intéresse pas.
À moins de 10 000, Walid, il va pas.
Regardez-moi ça.
Au programme de Génération After ce soir, le PSG proche de boucler sa première recrue estivale. L'Uruguayen Manuel Ugarte, des nouveaux joueurs avant un nouvel entraîneur. Le PSG travaille-t-il à l'envers? La liste des coachs au PSG potentiel s'allonge, hein, notamment le nom de Luis Enrique qui sort du chapeau. Unanimité chez les dirigeants parisiens. Walid, tu votes pour la venue de l'ancien sélectionneur de l'Espagne. Florent Rogier, notre invité, capitaine de Clermont, sera avec nous à 20h45, hein. Lui qui a totalement lancé sa carrière en Ligue 1 il y a seulement un an et demi, après avoir écumé les clubs de Ligue 2 nationale, formé à l'OL pendant 10 ans. Il sera avec nous tout à l'heure. Et puis à 21h, l'avis de Romain Canuti. Lens ne doit pas aller en Ligue des Champions pour faire de la figuration. Il faut être ambitieux, même si c'est un retour pour les 100 et or. 21h20, Bruno Genesio va rester à Rennes. Est-ce une bonne nouvelle pour le club et sa croissance et ses progrès? On vous attend au 32-16, supporters rennais. Et puis 21h40, et oui, on va enfin parler de Ligue 2. Car demain soir sur RMC, Multiplex Ligue 2, à partir de 20h45, trois équipes dans la course à la montée. Le Havre, pas serein en ce moment. Bordeaux, qui est lancé comme un frelon vers la Ligue 1. Et Metz, qui va craquer entre ces trois? On fera le débat à 21h40 et à 22h, bien sûr, Gilbert Brébois. Bonsoir Gilbert.
Salut les gars, ça va les Bordelais, on vous dérange pas trop?
Bah non,
c'est pour ça qu'ils ont le débat les deux là.
Bien sûr, j'ai
compris.
La France du foot tremble à l'idée que Bordeaux rate la marche. Gilbert, tout le monde veut voir Bordeaux en Ligue 1.
Oui, et puis l'audience RMC aussi peut-être. C'est sûrement, non? Qu'est-ce t'en penses?
Oui.
Bon, Gilbert est un peu chafouin.
Non, pardon,
hein.
Parce que Jimmy me parlait en même temps dans le cas.
D'accord. Jimmy Brown, le producteur, l'homme qui met de l'argent dans l'émission.
Oui, c'est vrai, j'ai passé une sale journée.
Sale journée, hein. Qu'est-ce qui s'est passé?
Sale journée. On a eu ma caisse à la fourrière sans raison, ça m'a rendu fou.
Sans raison, il y a toujours une raison quand on met la voiture à la fourrière.
Je remercie la ville de Paris. Alors, à 22h. On va parler des coachs, parce qu'on va aussi faire ce débat sur le futur coach de Paris. Et puis surtout, on va se concentrer sur la nouvelle génération des coachs. La génération cerveau, comme on l'appelle. Le Brice.
Connecté.
Aise. Et tutti quanti, comme on dit. Et puis, parce qu'on va rentrer un peu dans les détails, comment ils travaillent. Et figurez-vous que ces gens-là ont un mentor. Et on vous dira qui c'est tout à l'heure dans l'after. On vous racontera ça, c'est très intéressant. Et puis, ce soir, on a envie de s'amuser, donc on va vous parler des traîtres du football. Vous savez, ces joueurs-là qui passent d'un club à l'autre comme ça, pam, pam, Manu Militari, Romain, il a une petite liste, Fiorez, DU, compagnie.
Effectivement.
Figo, Luis Enrique.
Loric Sana.
Figo, Luis Enrique.
Loric Sana, formé au PSG, qui marque contre le PSG son premier but et qui dit « J'ai toujours rêvé de jouer à l'OM ». Je trouve qu'on peut...
Ça, c'est un trait que t'aimes.
Bah, évidemment.
Évidemment. Trait dans le bon sens pour toi, ça, évidemment.
Bah, il n'y en a pas trop dans l'autre sens... Au final, finit tous par les aimer. Gabriel Enze, tout ça, ils sont d'abord au PSG, après à l'OM. Dans l'autre sens, ça marche rarement.
Donc on va se plonger dans l'histoire des traîtres du foot et puis Galtier chacun pourra faire. Ah ben là dans l'autre sens.
Bah attends, hey. Luxin, Dalmat, tout ça à l'époque.
Mais ça marche pas au final.
Ah, pour être un traître, il faut que ça marche dans le club.
Plus. Pousse la logique jusqu'au bout. Ils ont envoyé Galtier pour que ça foire. Et ça a marché, bravo.
Bien vu.
On vous renvoie un avis que Walid avait écouté en l'été dernier.
Bref, donc voilà le programme d'ici minuit, plus l'actu du jour, évidemment, avec ce soir Kevin Diaz, peut-être lui aussi, qui fait peut-être aussi partie de la génération cerveau, hein, des nouveaux coachs, allez savoir. On verra s'il se définit lui-même comme étant dans la génération cerveau, et Thibaut Lepas.
Monter avec les U20, c'est-à-dire qu'avant cette génération, tout le monde était débile, enfin, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas de joueurs...
Non mais on a décidé de la baptiser général parce qu'il y a une cerveau. Réflexion sur le jeu, il y a un truc, d'accord. C'est pas juste, on met le bus, on attend, tu vois. Ouais. Et puis c'est la faute de l'arbitre.
Kevin Diaz qui est monté avec son équipe U20 notamment, donc entraîneur à suivre, Kevin Diaz.
Il est sur une série entre la victoire au tournoi de la presse avec RMC, puis sa montée avec son équipe. C'est fantastique, Kevin Diaz. Prend une dimension, on va le faire bientôt.
En tout cas, les gars, pour que l'émission de l'After soit bien, je vais essayer de remonter le moral à Gilbert et avant qu'il parte, lui dire juste. Que même à la Fourrière de Paris, on écoute l'after. Et ça, c'est peut-être la bonne nouvelle du jour. C'est ce qui a
à en tirer. Pourquoi tu dis ça ?
Parce que à la Fourrière de Paris, ils aiment beaucoup. Voilà, j'ai des infos et ils écoutent l'after. Et quand ils ont vu que c'était la voiture de Gilbert Bribois, ça leur a fait quelque chose.
Non, quand tu es prêt à faire une blague, je regarde Walid, il est comme ça.
Ouais,
il joue les yeux. Est-ce que ce sera drôle déjà ?
Est-ce que je vais comprendre ?
Est-ce que tu vas comprendre ?
Parce qu'en parlant de compréhension,
est-ce que vous êtes concerné ? Est-ce que vous êtes la cible ?
C'est tout ça. Exactement. Parce qu'en parlant de compréhension, j'ai enfin compris le quiz de Julien Caza et j'ai gagné.
Ouais, tu as humilié Jérôme Rotten.
Chez Rotten sans flamme avec du gars.
Avec ton Arda Touran.
Exactement.
Très bonne voiture d'ailleurs.
Oui.
Vous nous appelez au 32-16, le hashtag RMC Live, l'application RMC, RMC Sport, Direct Studio pour envoyer vos commentaires. C'est parti pour Génération After. On peut l'applaudir aussi, Fabrice Hoggins nous rejoint.
Bravo, brillant,
coéquipier de l'équipe d'RMC au tournoi de la presse. Bravo Fabrice.
Bon joueur, je l'ai déjà vu. Bon joueur.
Quel poste ?
C'est gentil.
Ouais,
phénomène ou
milieu,
pas ?
Milieu relayeur, je pense.
Bon joueur, phénomène ?
Pas phénomène, mais bon joueur. Ah, mais vraiment, bon joueur.
Bonsoir Fabrice, bonsoir, de l'imminent cellule PSG RMC Sport notamment. Bon, d'abord l'info du jour. Manuel Ugarte, milieu de terrain, uruguayen du Sporting Portugal. Devrait rejoindre le PSG, je dis au conditionnel pour l'instant, parce qu'il n'y a rien d'officiel évidemment dans la communication du club. Mais c'est très avancé, Fabrice.
Oui, dans le club, on communique même pas du tout d'ailleurs. On s'est renseigné auprès des entourages, du joueur évidemment, de la direction sportive également. Et effectivement, c'est très avancé. Manuel Ugarte et le Paris Saint-Germain, il devrait être la première recrue du Paris Saint-Germain. Ce n'est pas encore fait. Milieu de défensif de 22 ans hein, qui évolue au Sporting Portugal. Donc c'est en négociation. Ça devrait tourner autour de 60 millions d'euros. C'est la clause du joueur. On essaie de négocier côté parisien. On n'a pas forcément réussi. Et donc on est en train de se résoudre à payer 60 millions d'euros pour ce joueur Manuel Ugarte.
C'est club français qui paye la clause quand même, c'est bizarre. Quoi.
Après Marseille, effectivement, pour Vitinha, ouais. le Paris Saint-Germain qui s'apprête à le faire pour Manuel Ugarte, qui a des références, qui est un joueur surtout qui a été pisté pas mal en Angleterre, notamment par Liverpool, qui a fait une saison plutôt aboutie en Champions League. Pour vous donner une idée, gros ratisseur de ballon, et c'est le joueur le plus efficace au nombre de duels gagnés, 11 duels gagnés toutes les 90 minutes cette saison en Ligue des Champions. Et puis voilà, il a des mentors comme beaucoup de joueurs, des joueurs qu'il apprécie, notamment Sergio Busquets.
Il a pas d'abord deux défaites en Ligue des Champions sur sa campagne Ugarte là cette saison
contre l'OM.
Contre l'OM,
je pose la question. Il a compris Walid.
Ouais, j'ai compris.
Très vite.
Il a terminé troisième avec le Sporting et ils ont éliminé notamment Arsenal en Europa League.
Tout à fait.
J'ai eu Nicolas Villas au téléphone à son sujet.
Alors, qu'est-ce qu'on dit de Ugarte, les gars ?
J'ai eu Nicolas Villas aujourd'hui. Moi, je l'ai vu sur un échantillon très, très réduit, 4-5 matchs, notamment en Europe, face à Arsenal, face à Tottenham ou face à Marseille. C'est un chien fou, un bon joueur, dans le style d'un Palinha qui, lui aussi, joueur portugais qui était au Sporting et qui est parti à Fulham et qui fait des très belles choses à Fulham. C'est voilà le joueur uruguayen qui, avec le ballon aussi, est capable de faire des belles choses. Même si c'est pas ça pour moi sa qualité première, mais voilà un joueur qui, quand on regarde les clubs qui étaient dessus, intéresse les plus gros clubs, joueur d'intensité, peut-être ce qui manque au Paris Saint-Germain, même si on sait très très bien que aujourd'hui au PSG, avec les coachs qui sont arrivés sur les dernières années, est-ce que les milieux de terrain ont réussi un petit peu à s'émanciper du marasme collectif pour rayonner ? Ça va être la grosse question, mais en tout cas c'est un profil très très intéressant aujourd'hui en Europe.
60 millions d'euros, gros, c'est la clause hein, que tu disais à l'instant, Fabrice. Le PSG va se résoudre certainement à dépenser. Bon, c'est toujours dur de savoir si le joueur le vaut vraiment. Tout le monde a réagi ce matin en voyant l'information. C'est qui ce gars, pour beaucoup? 60 millions? Qu'est-ce que ça veut dire? Bon, Romain nous a dit
que traditionnel bizarre. Reste les meilleurs pour vendre leurs joueurs et pour s'en
réunir
en trade-in, mais
effectivement, parfois, on connaît un peu le foot. Hein, peut-être que ça peut servir quelques comptes bancaires de certains dirigeants de club aussi. Voilà, c'est tout.
Tu verses maintenant dans ces théories-là.
C'est-à-dire que c'est de prolonger ta pensée que tu n'oses pas dire à l'antenne depuis 3 semaines. Donc voilà.
D'accord.
Soyons quand même très concrets. Hein, on parle de croquage là dans l'histoire. Voilà, les gars. C'est pas forcément ce cas précis, mais en tout cas, c'est souvent ce qui arrive. C'est un choix de Luis Campos d'ailleurs, Fabrice, ou pas?
Oui, c'est un choix de Luis Campos qui travaille depuis plusieurs semaines, plusieurs mois, même un petit peu de manière discrète, parce qu'on avait donné pas mal de milieux de terrain ici ou ailleurs. Et c'est vrai que c'est un profil qui nous avait un petit peu échappé. On parlait de Manu Koné, on parlait d'Ibrahima Sangaré. Et c'est vrai parce que les entourages ont été contactés et ça c'est véridique. Maintenant il semble que Luis Campos avait aussi avancé plus discrètement sur cette piste et bien lui en a fait puisque il est en train de réussir à la mener à terme.
On parlait de joueurs français aussi dans ce mercato. Tu parlais de Manu Koné, mais on parlait aussi un peu de Kefren Thuram,
de Youssouf Fofana également.
De Youssouf Fofana, il choisit aujourd'hui Ugarte. On va voir. Après, petite observation comme ça, Luis Campos aime bien bosser avec Jorge Mendes en ce moment.
Ça, on peut pas te contredire.
Voilà. Quand on voit Danilo, quand on voit Bernardo Silva qui est aujourd'hui courtisé par le Paris Saint-Germain, on sait que El Shaddai Bichabou travaille maintenant avec Jorge Mendes depuis peu. Il y a une vraie connexion aujourd'hui. Entre Luis Campos et Jorge Mendes, quitte à se demander si Jorge Mendes n'est pas devenu le conseiller ou en tout cas le directeur.
C'était qui là? T'as cité Bichabou?
Bichabou a été récupéré par Jorge Mendes. Danilo.
Zaire Emery également.
Zaire Emery, je ne l'avais pas.
Danilo, Vitinha, Sanchez.
Exactement. Et Bernardo Silva qui est courtisé par le Paris Saint-Germain. Ugarte est aujourd'hui avec Jorge Mendes. Ça fait quand même.
Un commentaire du coup.
Walid.
Non, c'est pas un pavé dans la mare, c'est une observation.
Un jour, on lui dit que c'est Bappé qui décide du recrutement.
C'est Campos qui va driver le recrutement et puis dire ah, mais le mec il bosse toujours avec les mêmes. Surtout que Mendes, c'est quand même le pape des agents, tu vois. C'est quand même le mec qui pèse le plus lourd.
C'est juste une observation, Simon. Il n'y a rien de.
Il a pas tort.
Je te taquine, mais bon, c'est normal qu'il utilise les réseaux, les mecs qui connaissent.
Mais attention, ça peut devenir.
Il y a des agents maison dans tous les clubs. Il y a un peu des agents maison. Maintenant, moi, quand je vois la liste et au regard de l'observation de Walid, je me demande juste. S'il n'y a pas de sortie, comment est-ce qu'il va faire Jorge Mendes? Parce qu'il a quand même Vitinha, Danilo, Renato Sanchez, Warren, Zaire Emery et maintenant Ugarte qui joue au même poste. Quand on a l'agent, c'est pas simple d'avoir autant de joueurs dans le même secteur. Même si certains vont partir, je me demande quand même comment il va expliquer au petit Warren, Zaire Emery qui ramène un autre joueur d'importance dans son secteur.
Il me semble qu'il faudrait vérifier, mais que Carlos Soler est aussi chez Jorge Mendes.
Ah, je suis pas sûr de ça.
Faudrait regarder. Mais moi, ce que je dis, Simon, c'est que attention. C'est-à-dire que pourquoi pas? Bien évidemment, tout le monde travaille de cette manière. Mais quand un agent devient trop important et a trop de joueurs dans un club, ça peut aussi
on l'a
devenir
vu à un autre niveau.
Vers là, mais tu penses que tout Mendes qu'il est, tu penses que Campos il se sent obligé d'aller acheter des joueurs?
Je ne vais pas jusque là. C'est juste une observation.
En revanche, là où je m'appuie sur toi parce que toi tu l'as vu jouer, moi Ugarte, bon, j'avais à peine entendu.
Moi, je l'ai pas assez vu jouer non plus. Hein. J'ai vu 5 matchs pour déterminer la qualité d'un joueur. Pour moi, c'est pas assez.
C'est compliqué, ouais. Et puis tu sais, c'est encore les fameux transferts de hipster là, tu sais, de notre ami Campos qui va encore certainement nous prouver qu'il connaît le football et que nous on le connaît pas, mais bon, c'est un peu surprenant quand même. 60 plaques sur un Uruguayen de 23 ans, je veux bien, va falloir qu'il nous le déniche, voilà. Il va falloir que ça marche quand même, parce que bon, il y a eu les Solaires, les Ruiz, les machins, là Ugarte, il va falloir que ça marche quoi, hein, s'ils le prennent vraiment à ce prix-là et alors que personne le connaît. Bon, voilà, Campos il joue gros déjà là-dessus, je
pense. On a oublié Renato Sanchez aussi.
Je l'ai dit, effectivement. Fabrice, avant de te libérer, un mot sur Lucas Hernandez également, c'est une autre info du jour. On est en train de trouver un accord avec le défenseur international français.
Oui, peut-être pas un accord, mais en tout cas, les positions se rapprochent. D'accord. Je rappelle que Lucas Hernandez, son contrat arrive à échéance l'année prochaine. Donc, il y a un an, le Bayern fait tout pour essayer de le prolonger. Ils veulent le garder et le Paris Saint-Germain, qui recherche un axial gauche, eh bien, c'est positionné concrètement sur Lucas Hernandez. Il y a des discussions plus ou moins avancées. D'ailleurs, sont les sources. Moi, d'après les informations que j'ai et les interlocuteurs que j'ai pu avoir aujourd'hui, il n'y a pas d'accord ferme réellement. Mais en tout cas, le joueur a manifesté son envie de jouer pour le Paris Saint-Germain. Donc, on va voir dans les prochaines semaines, surtout d'abord ce qui se passe entre le Bayern de Munich et Lucas Hernandez. Et puis, si jamais les discussions pour une prolongation achoppent, très vraisemblablement, Lucas Hernandez va avancer avec le Paris Saint-Germain.
Là, c'est la même chose hein, pour Lucas Hernandez, si je peux donner mon avis, Nico. Je trouve qu'il y a une grosse incohérence. Moi, Lucas Hernandez est un super joueur. Il y a aucun problème là-dessus. Il n'a pas été transféré de l'Atlético de Madrid jusqu'au Bayern pour 80 millions d'euros pour rien. Maintenant, sur les trois dernières saisons, en termes de fiabilité, Lucas Hernandez, c'est très très compliqué. Il sort d'une très très grosse blessure. On parle du PSG. Le PSG a un secteur défensif qui est défaillant dans ce type de profil-là, parce que Skriniar va sûrement arriver avec des problèmes de dos. Ça fait 6 mois qu'il n'a pas joué. Kimpembe fait une saison presque blanche. Ramos commence à vieillir, on ne sait pas s'il va être prolongé ou pas, et ça pose aussi question. Et de prendre un Lucas Hernandez, je ne sais pas à quel montant, mais qui lui aussi sur les 2-3 dernières années n'a pas fait plus de 30 matchs en Bundesliga, c'est quand même problématique. Et on dit souvent, et notamment les plus grands observateurs, hein, Daniel ou autres, que le PSG doit faire un ménage sur les joueurs qui ne sont pas fiables, sur cette capacité à pouvoir enchaîner les matchs. Et aujourd'hui, on nous annonce Lucas Hernandez en défenseur. Surtout que Luis Campos a dit qu'il voulait jouer à 3. Oui, le profil est intéressant.
Avec Skriniar, peut-être aussi d'ailleurs. Hein. Bah Skriniar, oui, on ne sait pas où il en est réellement.
Ramener Skriniar et Hernandez qui ont des gros pépins physiques dans un club qui déjà a des tauliers qui font un match sur deux, c'est quand même cocasse. Hein.
Walid, apparemment, Skriniar, les négociations, elles ont commencé. Ils sont mis d'accord, il n'était pas encore blessé.
Donc encore pire, prends un mec.
Soit tu mets la clause en disant, bon, gros, par contre, si tu arrives, tu vois, si tu joues plus un match de la saison, mais je pense que tu peux pas insérer ça, le mec. Toi, sinon
mais pourquoi t'empiles avec Hernandez qui...
Mais je suis d'accord sur le risque, la fiabilité. Cela étant dit, moi, ça n'est que mon avis. Lucas Hernandez, pour moi, c'est top 5 mondial à son poste.
Oui, mais c'est un potentiel.
Dans une
encore.
Charnière. Et que tu joues à 3 ou que tu joues à 2. Je parle dans l'axe. Hein. Moi, je trouve que c'est du gâchis de le faire jouer.
Mais on l'a pas encore vu, Simon. On l'a pas encore vu.
Là encore, je pense que tu te mets. Ah, effectivement, le prix, ça va être une grosse question. Il lui reste un an de contrat. Tu peux imaginer que ce sera moins cher que ce qu'ils ont payé à l'Atlético.
Oui, on espère.
Ah, si le pari est gagnant, c'est quand même un.
Ah oui,
c'est
le pari.
Merci.
Superbe coup.
Si le pari est gagnant. Merci, Fabrice, messieurs.
Merci, Fabrice.
Les infos de Fabrice et la cellule Mercato.
J'ai eu confirmation
sur rmcsport.fr.
J'ai eu confirmation, très bon joueur Fabrice.
Très bon joueur, ouais. Mais voilà, tu vois. Tu as soigné la sortie de Fabrice de Génération After.
Merci,
très vite, Fabrice, sur RMC. On va beaucoup t'entendre dans les prochaines semaines, bien sûr, avec l'ouverture du Mercato à la fin juin. Reste à venir dans un instant. Quel entraîneur pour le PSG? Luis Enrique est un nom qui sort également aujourd'hui. Vous allez nous dire ce que vous en pensez. Walid veut le voir sur le banc du PSG. Restez avec nous sur RMC.